17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Vous le savez, nous sommes en direct. Et bien sûr, vous allez retrouver aujourd'hui au sommaire les influenceurs, des débatteurs qui viennent confronter leur point de vue tout à l'heure. Tout à l'heure, justement, pour traiter des sujets qui ont secoué la semaine. Je fais référence au grand débat national lancé par Emmanuel Macron concernant la drogue, le cannabis. Ensuite, après, nous parlerons de l'absentéisme des élèves et la potentielle suspension des allocations familiales. Ensuite, nous irons direction, vous savez, avec le point presse de Jean Castex. Qu'est-ce qu'on retiendra finalement sur, évidemment, le point presse concernant le déconfinement qui s'annonce? Et puis, le printemps berbère, le printemps noir. Souvenez-vous, il y a 20 ans, les berbères, la Kabylie, défiaient le pouvoir dans la rue en frêle comparaison avec le Hirak, justement. Et puis, nous rendrons hommage, vous le savez, à Nasser Ramdan Ferhadj, avec une série de personnalités qui vont venir défiler sur notre antenne pour parler de, évidemment, de cette personnalité qui a, comment, je veux dire, on a appris à la radio cette triste nouvelle, il y a quelques jours à peine, la triste nouvelle donc de Nasser Ramdan Ferhadj. D'abord, c'était une personnalité exceptionnelle, je dois le dire, remarquable. Ensuite, il a travaillé à la radio Beurre FM il y a quelques années. On se souvient de lui lorsqu'il était ici à la radio, effectivement. Moi, je n'ai pas eu le loisir de le connaître à cette époque, mais en tout cas, il avait marqué les consciences avec le sens de la responsabilité, mais surtout le sens du militantisme antiraciste, parce qu'il a été responsable de SOS Racisme en Seine-Saint-Denis. Ancien élu de la ville de Noisy-le-Sec, il est décédé, donc, paix à son âme, mardi dernier. Il y a quelques jours, l'a-t-on appris, donc, avec une grande tristesse. Hélas, évidemment, on vient de perdre une personnalité locale, en tout cas, une personnalité tout court. Et les hommages se sont succédés, se sont multipliés après l'annonce de son décès. Et on va continuer de le faire jusqu'à 16h30 aujourd'hui. Évidemment, bien sûr, Beurre FM s'associe toute l'équipe de BFM s'associe évidemment à cet hommage et on transmet nos sincères condoléances à la famille de Nasser Ramdan Ferhadj.
Beurre FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Il est 16h03, nous allons continuer de multiplier justement ces hommages avant de lancer donc et d'accueillir tout à l'heure les débatteurs, les influenceurs qui viendront commenter leur point de vue sur l'actualité. Nous allons accueillir la première personnalité pour rendre hommage à Nasser Ramdan Ferhadj, le président d'SOS Racisme, Dominique Sopo. Bonjour mon cher président.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Lorsque vous avez appris le décès de Nasser Ramdan Ferhadj, qui était un véritable militant chez SOS Racisme, qu'est-ce que vous pouvez dire, mon cher Dominique Sopo?
D'abord, ça a été terrible, puisque je l'avais encore eu la veille au téléphone. Nous avions bien rigolé et refait le monde comme d'habitude. C'est pour nous une perte terrible. Pour moi, à titre personnel, à titre amical, évidemment, et pour l'ensemble de la famille des potes, parce que Nasser, c'était un militant de tous les instants, quelqu'un qui était fou d'égalité, qui était un militant, j'allais dire, antiraciste, comme on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui, tout l'indigné, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, l'inégalité sociale. Et c'était quelqu'un qui non seulement était indigné par ça, mais qui en plus ne le faisait pas de façon aigrie, ne venait pas imposer une vision négative du monde. Il pensait qu'il y avait toujours des mobilisations possibles pour faire société, pour que ça aille mieux. Oui. Et c'est cette joie, ce sourire qui ont irradié finalement aussi toutes ces années pendant lesquelles il a milité à SOS Racisme ou ailleurs, et à la Fidèle, puisqu'il était le leader lycéen du mouvement de 1990.
Il a été un véritable militant antiraciste, une véritable figure, un des leaders justement des années 90, Dominique Sopo, monsieur le président.
Oui, il a été d'abord le leader, je disais, du mouvement lycéen de 1990, oui. C'est un mouvement très important, c'est un mouvement qui partait de la périphérie, qui venait du 93, c'est la première fois qu'il y avait un jeune d'origine maghrébine qui incarnait les aspirations lycéennes dans ces années de massification scolaire. Et le mouvement, d'ailleurs, avait donné lieu à beaucoup de moyens supplémentaires. Les droits des lycéens qui avaient été acquis, de pouvoir se réunir, de pouvoir afficher, de pouvoir revendiquer. Au sein du lycée, c'est en 90 que ça a été obtenu, et par la suite, Nasser a été un des vice-présidents de SOS Racisme. Il s'est engagé sur toutes les luttes contre les discriminations, contre l'extrême droite, pour la régularisation des sans-papiers, contre la résurgence aussi de l'antisémitisme, contre toutes les formes de racisme, les crimes racistes, etc. Bon, voilà, un militant essentiel, majeur, dans notre histoire.
En un mot, avant de vous laisser, Monsieur le Président des SOS Racisme, que retenez-vous, de Nasser Ramjan Farhadj?
Bah, ce que je retiens de lui, comme beaucoup de gens, c'est son sourire, parce que son sourire, il synthétise et sa fraternité et l'optimisme qui a toujours été le sien.
Merci Monsieur le Président, merci Dominique Sopo d'être intervenu pour rendre hommage justement à Nasser Ramjan Farhadj sur l'antenne de Beurre FM dans le grand déballage. Merci à vous, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir, 16h17 précisément. Nous allons continuer de recevoir ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont côtoyé. Et justement, parmi eux, on retiendra Hakim Haddad, qui était un véritable proche aussi de Nasser Ramjan Farhadj. Hakim Haddad, bonjour.
Bonjour, salam alaikum.
Comme Salam, vous êtes un véritable militant, vous aussi, associative. On connaît votre, évidemment, engagement aux côtés du Hirak. Vous êtes un des pionniers du Hirak, justement.
C'est le peuple algérien qui est le pionnier du Hirak. C'est personne individuellement, si je puis me permettre.
Bien sûr, vous pouvez tout vous permettre, Hakim Haddad. Qu'est-ce que vous pouvez dire lorsque vous avez appris le décès de Nasser Ramjan Farhadj?
Quand j'ai appris le décès, bah, c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête. Voilà. Je connais Nasser Farhadj Ramjan depuis qu'il a l'âge de 15 ans, où je l'ai connu dans les locaux de l'association SOS Racisme. Voilà. Et il était rentré un jour avec sa petite taille, mais ses grands espoirs, en nous disant « Allez, vous venez, on va libérer Mandela ».
Allez, vous venez, on va libérer Mandela. C'est en quelle année ?
À faire des choses. C'était fin des années 80, fin des années 80, je crois, 88 ou 89, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça a été pour moi un vrai ami de très longue date. Pendant que j'étais en Algérie, pendant mes années en Algérie et de militantisme en Algérie, nous avons continué bien évidemment à être très en contact, très liés. Je perds vraiment et nous perdons vraiment un très grand ami, un très proche en ce qui me concerne en tout cas, et j'arrive pas encore à réaliser, mais il le faudra bien et il faudra continuer parce qu'il aurait voulu qu'on continue et parce que la vie demande à ce qu'on continue.
Vous allez continuer vous aussi ce qu'il incarnait, c'est-à-dire ce militantisme antiraciste, Hakim Haddad.
Il incarnait le militantisme de mon point de vue de manière générale. Alors bien évidemment, il était plus investi d'abord dans son tout jeune âge auprès des lycéens, puisqu'il était lycéen, et il faut toujours le dire et le redire, il a été le premier dirigeant issu de l'immigration à être le leader d'un mouvement de masse, et en l'occurrence le mouvement lycéen des années 90. Ensuite, il s'est investi bien évidemment dans SOS Racisme, contre le racisme, contre toutes les formes de discrimination. Il a toujours été et il a toujours resté un militant pour l'égalité et contre toutes les formes de discrimination et racisme. Voilà, je tiens également à dire, puisqu'en même temps nous lui rendons hommage et particulièrement sur votre radio, et je vous en remercie par ailleurs, une radio qu'il appréciait énormément, et la radio en elle-même et les responsables de cette radio, vu son histoire avec nous, justement.
Il a travaillé à la radio, vous le savez, ça, je ne sais pas si vous le saviez.
Absolument. Voilà, et d'ailleurs, c'est lui-même qui m'avait réouvert à travers votre directeur Nasser Kentane les portes de Radio Beurre depuis le début du Hirak. Donc, je tiens à dire, et je, dans mon témoignage, c'est qu'effectivement, il a toujours été un militant pour l'égalité, contre les discriminations en France. Mais depuis ces deux dernières années, il s'est énormément rapproché du pays d'origine de ses parents, et il s'est pleinement et complètement avec ma personne, mais aussi collectivement investi pour le FERAC et pour le mouvement révolutionnaire qui revendique le droit, qui revendique la justice, qui revendique la pluralité, qui revendique l'égalité et la démocratie tout simplement en Algérie. Donc c'est vraiment très important de dire ça en ce qui le concerne, parce que c'est un mouvement un peu, le mouvement du FERAC ressemble à Nasser lui-même. C'est un mouvement positif.
Et ça se bat finalement pour les libertés de chacun. Et c'est ça aussi, Nasser Ramdan Faraj.
Oui, c'est il offre de lui-même à l'humanité. Voilà, il a offert de lui-même à l'humanité, et je pense que malheureusement son départ très prématuré, quand son corps l'a lâché, c'est aussi parce qu'il a énormément donné pour l'humanité, pour le bonheur de cette humanité, et c'est pas juste des mots ou des phrases que nous sommes en train de dire. Voilà.
C'était quelqu'un qui était toujours jovial, quelqu'un qui était toujours dans le positif, quelqu'un qui était toujours souriant, Hakim Haddad.
Avec un très très beau sourire, effectivement. Alors bien évidemment, quand on était dans les coordinations lycéennes ou étudiantes, etc., il savait aussi se mettre en colère, il savait aussi montrer les limites, mais effectivement, il aura marqué son passage sur cette terre avec son magnifique sourire et son rire que tout le monde, que beaucoup d'entre nous connaissent et continueront d'entendre les nuits et les jours qui viendront.
Avant de vous laisser à Hakim Haddad, qu'est-ce que vous retenez de Nasser Ramdan Faraj? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs?
La foi en un avenir meilleur. La foi en un avenir meilleur. Qu'il est toujours possible d'améliorer les choses, qu'il est toujours possible de venir en aide à son prochain, à ses prochains, comme de ne jamais laisser tomber. Comme quoi, toujours en se levant et en marchant et en avançant et en se battant, individuellement, mais surtout collectivement, qu'on peut arriver à améliorer notre situation et la situation de l'humanité. C'est vraiment le positif. Nasser, c'est le positif. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour ces mots, merci pour ces paroles.
Merci à votre radio de nous avoir permis de témoigner pour lui.
Et c'est la moindre des choses, bien
continuant,
sûr.
Continuons pour lui, pour nous tous. Et c'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre et rendre à tous ceux qui nous ont déjà quittés. C'est de continuer sur le chemin sur lequel ils avançaient avec nous, le chemin des luttes et des victoires.
Merci à Hakim Haddad d'avoir été avec nous. Merci.
Merci
à vous aussi. Nous allons poursuivre les hommages. Nous allons faire une courte pause pub. Je disais juste que Nasser Ramdan Faraj, pour le rappeler à nos auditeurs, vous aussi d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez dire un mot si vous le souhaitez, dire un message aussi au 01 53 48 3000 partout en France. Il était donc vice-président d'SOS Racisme, responsable de l'antenne SOS Racisme en Seine-Saint-Denis. Il a été maire adjoint à Noisy-le-Sec. Évidemment, il a travaillé aussi au sein de la radio il y a très longtemps, à Radio Beurre FM, ici même avec nous. Les hommages se sont multipliés depuis quelques jours, depuis mardi dernier. Un véritable militant antiraciste. Comme l'a rappelé Hakim Haddad et Dominique Sopo, il était l'une des premières figures, un des premiers leaders de la Fédération indépendante des démocratiques lycéennes dans les années 90. Donc il n'a jamais rien lâché, il a toujours été au front, et comme il l'a rappelé Hakim et Dominique, évidemment c'était un homme plein de dynamisme et surtout de, comment dirais-je, d'entrain, c'est-à-dire qu'il ne voulait jamais rien lâcher pour aller jusqu'au bout avec un seul message, c'était la fraternité, l'égalité et puis son combat contre l'antiracisme. 0153 48 3000, nous allons retrouver d'autres personnalités, mais vous aussi au 0153 48 3000, vous pouvez nous appeler. À tout à l'heure, ne bougez pas, restez avec nous. On marque une courte pause pub. Voilà,
le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 17h-19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Encore accueillir, vous savez, avec ces hommages qui continuent de se multiplier, vous le savez, concernant le décès de mardi dernier de Nasser Ramdan Faraj, qui était responsable départemental des SOS Racisme, vice-président des SOS Racisme, mais également aussi et ancien maire adjoint donc de la ville de Noisy-le-Sec. Nous sommes avec Fodessila, qui l'a connu, qui l'a bien connu. Fodessila, ancien président des SOS Racisme, qui est aujourd'hui ambassadeur auprès de Macky Sall, qui le président du Sénégal. Monsieur l'ambassadeur, monsieur Fodessila, bonjour.
Bonjour, cher Adil.
Merci d'être avec nous, monsieur l'ambassadeur. Vous avez connu, vous, Nasser Ramdan Faraj, vous l'avez connu?
Ah, moi, je suis très peiné et vraiment, je présente mes condoléances à la fois à sa mère et à ses frères, ses sœurs, et bien évidemment à l'ensemble de la famille des potes. La sœur Ramdan, j'en ai un souvenir très ému aujourd'hui et je suis encore vraiment très touché parce que je pense que je suis la personne qu'il a dû venir voir, une des premières, lorsqu'il a poussé la porte de Suez Racisme. À l'époque, moi-même, j'étais étudiant à la fac de Créteil et responsable de la commission lycéenne des Suez Racistes pour la libération de Nelson Mandela.
Oui.
On était donc, en peu avant les années 80-90. Et là, Nasser Ramdan est arrivé, il a demandé à voir la commission lycéenne, parce que lui avait été déjà élu, je crois, au collège pour représenter les jeunes élus dès le collège. Il était déjà très engagé. Il est venu voir, il m'a dit « Bonjour, voilà, je suis venu pour libérer Nelson Mandela ». Bon, donc il y avait à la fois un côté extrêmement touchant, il y avait aussi cette arrogance que j'aime bien chez les enfants de cet âge-là, qu'on peut se permettre lorsqu'on a plein d'utopies, et puis que ces utopies, on sait qu'un jour on peut les transformer en réalité. Il faut cette dose à la fois de conviction, il faut oser aller... vers une association ultra médiatisée à l'époque, franchir les portes et arriver en se mettant à la hauteur et disant je veux libérer Mandela. Donc j'ai pris sous ma coupe à partir de ce moment-là. Et puis lorsque dans les années 90 nous avons créé l'Organisation des Banlieues Unies, bien que lui venant plutôt des mouvements lycéens où il avait été leader et il avait même été s'asseoir avec le président Mitterrand pour négocier les droits des lycéens. Et à l'époque, le grand journal Jeune Afrique avait titré « Celui qui s'assoit d'égal à égal avec le président en mettant la tête de ces jeunes lycéens
oui. ».
Et bien, n'empêche que quand on a créé les mouvements en banlieue, la branche banlieue des Suez Racistes, appelée l'Organisation des Banlieues Unies, avec Thérindo à Épinay, etc., là aussi, il m'a rejoint. Ensuite, quand j'ai pris la présidence des Suez Racisme, après Harlem Désir, il est resté un de mes vice-présidents, et notamment toutes les campagnes contre le Front National, et jusqu'à ce que je devienne député européen, on a fait également un parcours avec le Parti communiste français en étant issu du mouvement associatif. Donc, je sais qu'encore aujourd'hui, il était extrêmement actif. J'ai envie de dire que dans le mouvement antiraciste français de ces dernières années, c'était probablement le plus attaché aux valeurs laïques et républicaines de la société française. Il était extrêmement... c'était un laïc, c'était un républicain, mais en même temps, il n'avait pas une vision caricaturée je dirais, de ces questions-là, parce qu'il acceptait, tout en étant extrêmement laïc, les faits que chaque communauté puisse être acceptée en tant que telle, respecter le juif en tant que juif français, respecter l'arabe musulman en tant que musulman français, mais surtout il développait cette idée que nous vivions tous dans une entité républicaine, laïque, et que c'est ça qui faisait notre cohésion, et qu'ensemble on devait avancer avec ça. Donc à la fois il respectait tout le monde dans sa différence, mais il savait que nous avions cet avenir à bâtir ensemble, et que donc ça se passait dans l'esprit républicain et laïque, et ça, il y tenait beaucoup. En tout cas, je n'ai jamais vu chez Nasser Ramdan l'ombre du début, du commencement de ce racisme vis-à-vis de quoi que ce soit et tous nos combats.
Qu'est-ce qu'on retiendra ? Qu'est-ce que vous retenez de Nasser Ramdan Ferhadj, monsieur l'ambassadeur ?
Je retiens, moi, que c'était probablement un des plus coriaces défenseurs des droits de l'homme français. Et ça allait du droit des lycéens à l'émancipation, l'égalité entre les hommes et les femmes, en passant par le droit à toutes les minorités de pouvoir coexister ensemble. Je retiens de lui qu'il était, lorsqu'il démarrait, une idée, et comme il avait chevillé au corps ses valeurs républicaines et laïques, et bien il allait jusqu'au bout et il n'avait jamais peur d'aller s'affronter aux plus radicaux, à tout ce qui pouvait remettre en cause se vivre ensemble à la française. Il n'était pas hypocrite, il n'était pas mesuré dans son engagement, et il était aussi, ce qu'il avait, ce rire de Nasser que j'ai connu quand il avait 14 ans, et il a gardé jusqu'à la fin. Passer un moment avec Nasser, c'était un moment de bonheur politique et humain.
Merci Fodessila d'être intervenu évidemment sur l'antenne pour lui rendre hommage aussi. Chacun à sa manière, chacun à sa façon, avec vos mots, vos messages. Merci Fodessila.
Peut-être aussi juste pour dire qu'au Sénégal, aujourd'hui, nous pensons aussi beaucoup à lui, parce que Nasser Hamdan était venu régulièrement avec moi, notamment organiser des voyages avec des jeunes français, des quartiers beurre blanc black, qui venaient régulièrement au Sénégal, rencontrer des jeunes sénégalais, et puis aussi retrouver une utilité, voilà, en faisant des opérations, construire des puits, monter des dispensaires, amener des bibliothèques, et ces opérations qu'on appelait banlieue du monde, Nasser Hamdan était une pièce maîtresse, donc il y a énormément de Sénégalais aussi aujourd'hui qui pensent à lui, et notamment de la ville de Tambacounda, qui m'ont demandé de transmettre les condoléances au président Dominique Sopo, à tous les potes et puis à ses parents.
De Fodessila, monsieur l'ambassadeur, il y a juste un des débatteurs, Akli Melouli, que vous connaissez bien, qui veut vous saluer à l'antenne en direct.
Ah, absolument.
Bonjour monsieur l'ambassadeur, salut Fodé. Effectivement, tu parles de banlieue du monde et tout ça. Et
bonjour.
Et c'est des souvenirs, on n'était pas toujours des fois d'accord avec la serre, mais c'était vraiment, tu as raison.
Allô ?
Ouais, tu m'entends Fodé ?
T'entends bien,
frangin. Ouais, ben je voulais te saluer et puis effectivement avoir une pensée aussi pour Nasser. On a eu des débats houleux avec Nasser, mais tu as raison sur sur un sujet. C'est vrai que c'était quelqu'un d'assez droit, franc et qui défendait ses convictions et ça, c'est un militant, on peut pas lui enlever ça. Et puis banlieue du monde, c'est aussi beaucoup de souvenirs. Et c'est vrai que avec le Sénégal, c'est un lien particulier. D'ailleurs, au passage, quand tu as parlé de Tambacounda, je voudrais avoir une pensée pour Diallo aussi, le député de la région de Tambacounda qui nous a écouté il y a un moment déjà. C'est
merci
l'occasion
beaucoup
de dire à tous les gens de Tambacounda qu'ils ont eu un député extraordinaire en la personne de Diallo.
Ah, absolument. Bon, tu vois, t'en gardes des bons souvenirs et je suis très content que nous puissions parler de ça. Comme ça, ce qui prouve que tout ce qu'on dit là est authentique et réel. Et tu vois, c'était pas calculé, c'est spontané. Et donc, je pense qu'on a tous ce grand souvenir. Mais en tout cas, au nom de Nasser et de toutes les générations militantes, moi, je sais que je resterai toujours disponible à cette histoire, quel que soit ses hauts et ses bas. En tout cas, on pourra toujours compter sur cette génération.
Eh bien, merci voilà, monsieur l'ambassadeur d'avoir été avec nous en antenne en direct pour cet hommage.
Adil, à bientôt.
À très bientôt. Nous allons accueillir Omar qui est donc qui l'a connu aussi également, qui est un journaliste. Omar, bonjour Omar. Omar, vous êtes avec nous, vous êtes là? Allô. Bon, on a quelques problèmes de connexion. Omar était aussi, qui l'a connu d'ailleurs, qui avait consacré un des premiers reportages autour de Nasser Hamdan Ferhadj. Il est 16h30. Soit nous tentons évidemment de rattraper et de reconnecter donc avec ce journaliste Omar, qui l'a connu aussi également. Sinon, nous allons évidemment enchaîner les programmes et tout de suite démarrer le grand déballage avec Pascal Boniface et son édito. Nous allons tenter de l'accueillir. Omar, vous êtes avec nous de nouveau, Omar? Vous êtes là? On a tenté de vous récupérer. Allô, Omar?
Allô. Oui, bonjour Adil, bonjour Fodé.
Omar, bonjour. Ça va, Fodé? Fodé nous a quittés là, il y a un instant, donc il est parti, donc il était avec nous en direct. Omar, merci d'être avec nous. Rappelons-le, vous êtes écrivain, journaliste, producteur, vous êtes aussi lancé dans d'autres projets, Omar Gendouz. Dites-moi, Omar, vous l'avez connu, vous, Nasser Hamdan Ferhadj?
Oh, oui.
Un des premiers reportages, d'ailleurs, c'était avec vous, je pense.
Absolument, absolument. Il y a une vingtaine d'années, moi, c'est à peine, Nasser, pour moi, c'est tout droyant, parce que j'arrive pas à trouver les mots pour qualifier ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Un mec comme Nasser, c'était un mec qui allait dans les banlieues, qui allait voir directement à la source même, aller chercher, je dirais, les talents. Et puis bon, je suis submergé par l'émotion, quoi, et assommé par la tristesse. C'est pour moi, voilà, quoi. Je sais pas quoi dire à part dire, Nasser, tu vas nous manquer.
Eh ben, merci en tout cas. Écoutez, c'est peu dit, mais c'est en tout cas très clair et c'est très émouvant. Merci Omar d'avoir été avec nous.
Et de surcroît, ce que je tenais à dire, c'est que des Nasser, on ne va pas en ramasser des masses. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de faire de longs discours ou qui a un discours éloquent. Mais là, c'est vraiment la chose du cœur. Je vous assure que même d'un point de vue local à Noisy, d'un point de vue associatif, il a réveillé des consciences politiques. Je veux dire, si aujourd'hui je suis journaliste, écrivain, aujourd'hui, si j'arrive à faire des choses, c'était des mecs comme Nasser à l'époque des SOS, ensuite avec l'Organisation des banlieues unies, comme l'a très bien dit tout à l'heure, ou plein d'autres choses aujourd'hui qui je veux dire, c'est un manque terrible, quoi. C'est un manque terrible, Nasser, tu vas nous manquer, quoi. Et vraiment, je veux dire à sa famille, on l'aime, et on l'a aimé, et on l'aimera. Donc voilà, quoi.
Eh bien, merci, voilà, merci d'être intervenu pour cet hommage concernant donc Nasser Hamdan Ferhadj. nos sincères condoléances à toute sa famille, à tout son entourage, absolument, et paix son âme, évidemment, Nasser, qui a travaillé ici, hein, donc à Beurre FM. Et donc, je le rappelle à nos auditeurs, Nasser Ramdan Ferhadj est décédé mardi dernier. Il a été responsable donc des SOS Racisme, vice-président et maire adjoint de la ville de Noisy-le-Sec. Merci Omar, bon courage à vous aussi également.
Merci à vous, à tous. Au revoir.
Merci, à très bientôt. 16h33, nous allons lancer le grand déballage avec Pascal Boniface et son édito.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
Bonjour mon cher Pascal Boniface.
Salut Adil, tu vas bien ?
Très bien, je te remercie infiniment. Comment ça va ? Tout va bien ? Aujourd'hui, vous avez décidé de consacrer, eh bien, votre billet d'humeur autour d'un sujet des chèques des États généraux de la laïcité. Pour quelle raison, mon cher Pascal, on vous écoute ?
Bah, ça fait pchit comme la Ligue privée des champions, finalement. On peut faire un parallèle. Hein.
Ah, c'est, l'ouverture, ça fait pchit.
Une idée qui apparaît géniale, tout va bien, et puis en fait, c'est réservé à certains... on ne veut pas écouter ceux qui ne sont pas d'accord, et puis finalement, bah voilà, ça s'écrase à terre. Et heureusement, parce que finalement, c'était quand même une idée quand même très dangereuse. Les États généraux, c'est quand même une idée formidable, mais on le fait pas comme ça dans l'improvisation la plus totale, et surtout pas uniquement avec les gens qui pensent comme vous, puisque dès le départ, ceux qui pouvaient venir étaient ceux qui étaient d'accord avec la conception qu'a Marlène Schiappa de laïcité, enfin la conception qu'elle a maintenant. Parce qu'il y a 4 ans, elle disait l'inverse. Mmh. Et j'aimerais bien, moi, un peu que les journalistes fassent leur boulot, qu'ils lui demandent pourquoi elle a changé d'avis. Pourquoi elle dit exactement l'inverse de ce qu'elle disait il y a 4 ans. Ouais. Et personne ne va trop la remuer sur ce terrain-là. Et puis, aussi, l'autre chose qui me choque, c'est dans les gens que Marlène Schiappa mis en scène, il y avait Karine Fourest. Et là, on a vu que Jean Bobéro, qui est quand même la référence académique universitaire sur la question de laïcité, qui est reconnu internationalement là-dessus, il est venu pulvériser là, en disant que tout son bouquin, c'était quand même beaucoup d'erreurs factuelles et beaucoup de malinterprétations. Et ce qui me gêne un peu, c'est qu'il n'y a pas tout le monde dans ce gouvernement, mais beaucoup dans ce gouvernement, on le voit bien, c'est la guerre aux sciences sociales. On préfère des gens n'ont pas réellement de crédit scientifique, mais qui sont d'accord ou qui font le buzz. Et en fait, tous les gens qui ont travaillé pendant des années sérieusement sur le sujet, eh bien, on dit non, regardez ce qui se passe sur l'islamo-gauchisme aussi. Bien sûr, tous les universitaires sérieux disent que c'est une notion qui n'a pas de sens, mais c'est repris en boucle et ça passe crème. Et donc, est-ce que cette affaire-là, ça sera comme la Ligue privée des champions, un tournant où on va un peu réfléchir sérieusement sur les questions de laïcité? Est-ce qu'on quand même on va se rendre compte que la laïcité, elle est quand même surtout mise en avant par certains, uniquement contre les musulmans, soyons clairs, et que pour beaucoup, c'est enfin pour certains, c'est une façon finalement de dire attention, le racisme anti-arabe, c'est plus possible, mais on va se réfugier dans la laïcité pour viser mais une seule communauté, parce que il y a vraiment qu'une communauté qui est mise en cause. Et donc franchement, la laïcité, c'est un trésor, je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais ceux qui parlent de laïcité falsifiée, pour reprendre l'expression et un très bon bouquin de Jean Bobéro dont je conseille la lecture à tout le monde, eh bien, c'est tout à fait différent. Donc, la vraie laïcité qui est la liberté de croyance et qui est aussi la liberté de ne pas croire d'ailleurs et la liberté de critiquer les religions, mais pas du tout le fait de centrer les critiques sur une seule communauté en se prévalant de principes universels. Alors qu'en fait, on n'y est pas du tout. Quoi.
J'ose presque vous dire, mais pour quelle raison elle a préféré donc Karine Fourest à ce grand savant Bobéro?
Bah, parce qu'elle est d'accord avec ce qu'elle dit maintenant, alors que Bobéro, lui, la conception qui date de laïcité, qui s'appuie sur non seulement des convictions, mais sur un savoir surtout, eh bien, c'est tout à fait dire, par exemple, que le voile est un problème et qu'il faut l'interdire pour les sorties scolaires. Aristide Briand se retournerait dans sa tombe s'il entendait ça. Donc, on voit bien quand même. Et puis, regardez, moi, je pense toujours au regard international qu'on a sur notre pays, puisque c'est un peu quand même mon domaine. On se fout de nous. C'est-à-dire que les gens se disent attends, Voltaire revient, ils sont devenus fous. On a vraiment des débats hystérisés sur les questions d'identité. Et ce que je crains, c'est que ça s'empire avant 2022. Alors, au moins,
on vous a perdu, mon cher Pascal Boniface. Bon, écoutez, c'est... Allô ? On l'a récupéré. Bon, c'est pas bien grave. C'est aussi les aléas du direct. C'est comme ça. 16h38. Nous allons marquer une courte page pub. Nous allons retrouver avec les influenceurs qui vont commencer leur, de débattre sur leur point de vue. Je vous dirai un petit mot sur la laïcité. Tiens, sur ce grand débat lancé par notre ministre Marlène Schiappa. À tout de suite. Ne bougez pas. On lance la pub.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 16h-18h, le grand déballage avec Adil Farkan.
En direct, 16h43, nous allons retrouver donc les débatteurs. Je vais les annoncer et je vais les accueillir. 01-53-48-3000, c'est tout à l'heure aussi, notamment au standard que ça se passe, si vous voulez venir commenter l'actualité. Pascal Boniface, évidemment on a été interrompu, que s'est-il passé? Mais je vais vous laisser donc la chute de votre billet d'humeur quand même.
Oui, ben donc espérons en 2022 il y aura les élections. J'espère qu'il n'y aura pas une sorte de déferlement de faux débats sur la laïcité. Emmanuel Macron a recadré Marlène Schiappa là-dessus. Il était temps, mais ma crainte un peu, c'est que on ait un peu un déferlement de discours plus faux les uns que les autres. Et espérons que le vrai savoir sur la laïcité, le vrai débat intellectuel, va prendre le pas sur les fantasmes et sur, en fait, cette laïcité falsifiée qui est présentée par certains.
Eh bien, merci, mon cher Pascal Boniface. Je vous dis à la semaine prochaine, sans faute.
Avec plaisir, Adil, avec plaisir.
Plaisir partagé, portez-vous bien.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
Le quoi de neuf, allez, tout de suite, je vais commencer par Akli Meloli. Bonjour, maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne. Comment ça va?
Ça va, et vous, Adil, merci de nous recevoir chez vous.
Bon, tout va bien?
Bah oui, tout va bien.
Vous n'êtes pas en campagne, vous, en ce moment?
Bah, tout le monde est en campagne.
Tout le monde est en campagne. Voilà. Bon, bah, très bien. À vos côtés, c'est Alexis Poulain. Bonjour, Alexis.
Bonjour.
Poulain. Comment ça va?
Ça va bien.
Merci. Rappelez-nous quand même votre média en ligne. Alors, le fondateur, attention.
Ouais, pas n'importe qui. Le monde moderne, .media, média en ligne. On a des podcasts, des articles. Et tout récemment, on a lancé une revue de presse à 8h tous les matins sur Twitch.
Twitch, qui marche bien, ça va?
Ça marche carrément bien, les gens trouvent ça bien. Alors on essaye de lire la presse mainstream, comme on dit, hein, donc et d'essayer de lire entre les lignes cette presse affiliée aux milliardaires pour comprendre un peu mieux les débats qui agitent ce petit pays qu'est la France.
À la une du monde moderne, c'est et précisément l'Irlande.
Ouais, l'Irlande, la paix impossible en Irlande, mais on parle aussi de la difficile union de la gauche. On dirait, est-ce que la gauche va y arriver ou pas?
La gauche n'y arrive pas.
Ça va être compliqué.
C'est compliqué face à vous. Philippe Nadjibouriaki, qui est lui, pour le coup, candidat aux élections, donc régional pour l'Europe Écologie Les Verts. Bonjour.
Bonjour. Alors, pas vraiment. Moi, je suis Europe Écologie Les Verts, mais pas vraiment Europe Écologie Les Verts, puisque c'est le pôle écolo, c'est l'alliance de six formations écologistes, dont Génération S, l'Alliance Écologie Indépendante, Génération Écologie, le Mouvement des Progressistes, et bien sûr, Europe Écologie Les Verts.
Europe Écologie Les Verts, voilà.
Mais je suis deuxième dans le Val-de-Marne, derrière Annie Lameur.
À vos côtés, un conseiller en communication, il s'appelle Mohamed Benjibour, qu'on connaît ici même. Comment ça va, mon cher Mohamed?
Bonjour, Adil Farkan.
Tout va bien?
Ça va très bien, moi je suis candidat à rien.
Vous êtes tout, qu'est-ce qui se passe?
Je suis candidat à rien.
Vous posez les mains, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez les manches.
Non, je préfère être debout.
Ah,
je fais attention.
Vous avez peur du virus ou quoi?
Bah oui, je fais attention.
Je vois, c'est le seul là, il est bien camouflé, tu sais. Viens camoufler. Viens donc avec une combinaison.
Non, mais moi quand je fais pas confiance, je me camoufle. Tout à l'heure, j'étais avec votre directrice, j'étais pas camouflé du tout. Et puis là, voilà, c'est un peu lourd, c'est avec des moustaches.
J'adore. Un mot sur la laïcité lancée par Marlène Schiappa. Tiens, Alexis Poulain.
Écoutez, ce gouvernement. Alors, moi aussi, j'ai écouté avec intérêt Pascal Boniface. Je suis tout à fait d'accord. Le problème de ce gouvernement d'influenceuses et d'influenceurs, c'est qu'il confine à la médiocrité et au grotesque systématiquement. Et Marlène Schiappa n'y a pas échappé. Alors, sa sortie de aujourd'hui, c'était que Hanouna devrait animer le débat d'entre-deux tours en 2022. Bon, on n'est pas à l'abri de tout ça. Et évidemment, son entreprise de faire un débat, une grande table ronde, je ne sais même pas comment elle appelle ça, une conférence sur la laïcité, alors qu'elle plombe l'Observatoire de la laïcité de Nicolas Cadenne, qui fait son boulot depuis très longtemps, et Bianco, qui fait un boulot exceptionnel auprès des publics scolaires et tout le monde, et qui n'a jamais eu de moyens, hein, il faut le dire. Pourquoi c'est aussi difficile pour eux? C'est qu'ils n'ont jamais été aidés. Là, on finit, on ferme pour créer je ne sais pas quel commissariat politique, parce que c'est ça. Aujourd'hui, la majorité présidentielle utilise la laïcité pour en faire un outil politique clairement orienté pour draguer les électeurs de droite, voire d'extrême droite, en pointant du doigt une religion, et c'est pas ça la laïcité.
Et elle fait des vagues.
Eh ben, elle fait des vagues. Et d'ailleurs,
l'initiative
même Macron,
de Marlène Schiappa.
Et c'est lui en même temps, même Macron a dit, c'est quoi ça? Enfin, mais c'est toujours facile. Alors, Macron, c'est toujours pareil, c'est jamais sa faute, c'est toujours la faute des autres. Mais je pense pas qu'elle aurait fait cette initiative sans l'aval de l'Élysée.
Oui, alors les états généraux de la laïcité, justement, bonne initiative ou... Un acte manqué encore.
Là, c'est plus. Je reprends la formule de Pascal
Boniface. Parce qu'elle se plaint, Marlène Schiappa. Elle se dit les opposants s'opposent. Mais c'est un peu logique.
Non, mais attendez, il n'y a pas d'opposants. Le problème, c'est qu'ils veulent rester entre soi. Soit dans une démocratie, il y a débat. Et lui, il a parlé de Briand, mais Jaurès. C'est les mêmes personnes qui citaient Jaurès hier, qui, Jaurès, pensent complètement l'inverse de ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'en 1905, Jaurès défendait l'inverse de ce qu'ils défendent. Eux défendent ceux qui ne voulaient pas de cette loi, justement, à l'époque, en disant l'Église va prendre le pas. Et ils traitaient à l'époque, déjà, je l'avais déjà dit ici, Jaurès et Briand, de socialo-papalin. C'est-à-dire, en fait, ils faisaient le lit de l'Église. Aujourd'hui, les autres, les islamo-gauchistes, font le lit des mosquées. Donc, on nage en plein délire. Et moi, je suis au Comité national des cités, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Louis Béraud, et quand même et d'autres personnes, où il y avait des points de désaccord et tout. Mais il y avait, dans la Commission nationale, il y avait un débat scientifique avec des gens qui posaient des choses. Parce que quand j'entends dire, moi, je suis laïque, désolé, l'individu, il est croyant ou non-croyant, athée ou ce qu'il veut, mais il ne peut pas être laïque. La laïcité, c'est un cadre, c'est un principe de vie. La laïcité, ça concerne tout le monde.
Certains vous diront le contraire, mais bon.
Non, mais on peut pas. C'est la République qui est laïque. C'est pas les individus. Les individus, ils ont le droit de croire ou de ne pas croire. C'est justement ce que leur garantit la laïcité. Et ils voudraient, eux, utiliser la laïcité comme une religion. Et attendez, il faut être cohérent dans les débats. Et moi, je trouve que ces débats sont dangereux parce qu'en plus, ils nous ridiculisent au niveau international parce que les gens ne comprennent plus ce que veut dire la laïcité à la française, qui est d'abord, qui est au départ un bon concept du vivre ensemble, le ciment, je te reconnais, dans ta diversité, dans le truc, mais le respect doit être mutuel, chacun la bienveillance, enfin comme les principes de la République. Mais là, c'est plus tout ça. Là, on s'en sert comme un espèce d'épouvantail ou comme on va en faire une religion contre les uns et les autres. Et la laïcité, si elle monte les uns contre les autres, ce n'est plus la laïcité. La laïcité, c'est le ciment du vivre ensemble. Et comme je le disais la dernière fois avec Mohamed Mbia, c'est la loi protège la foi tant que la foi ne fait pas la loi. Et je finis en disant, un croyant a le droit de croire que la loi de Dieu est supérieure. Par contre, il n'a pas le droit de ne pas respecter la loi tant qu'elle est en vigueur, parce que les lois sont faites aussi pour être changées. Elles changent régulièrement. Donc il faut arrêter avec ces faux débats. Surtout, et soit dans la démocratie,
Alexis,
soit on ne l'est pas.
Mais surtout que la loi est bien faite. Ce qui est terrible, c'est que la loi est bien faite. Elle a été vraiment pensée à l'époque pour être bien faite, justement, pour respecter les croyances, pour respecter chacun et autoriser cette façon, justement, de vivre ensemble dans la diversité. Et aujourd'hui, on voit que ceux qui se prétendent républicains et laïcs sont en train de défaire et la laïcité et la République. Et la République, ça ne se résume pas à la laïcité. C'est pas ça. On ne peut pas faire une réduction ad laïcitum, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils sont en train de faire un mal fou à notre République.
Mohamed Benjebour et ensuite Philippe Nadjibouriaki. Mohamed Benjebour.
Comme d'habitude, on, au lieu d'appliquer les règles ou au lieu d'aider à fonctionner des organismes qui existent déjà, on en crée de nouveaux. Et je vais paraphraser De Gaulle qui disait que ce que pense le comité Théodule ou le comité Hippolyte n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est utile pour le peuple. Oui. Et ce qui est utile pour le peuple, Aklim Ennouli vient de le citer, vient de le décrire. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de créer d'autres problèmes. On sent qu'on est en période préélectorale. Voilà. Et on en parlera tout à l'heure sur les sujets de sécurité et de drogue. Mais c'est bien cynique tout ça.
Bien cynique. Philippe Nadjibouriaki.
Difficile de passer derrière Pascal, Akli, Mohamed et
Alexis.
Alexis. Ils ont bien résumé. Moi, je serais un petit peu plus piquant. On est dans la politique spectacle et l'influenceuse Marlène Schiappa, après nous avoir vendu du shampoing et des coiffeurs, aujourd'hui veut nous vendre des assises qui n'existent pas. Moi, j'aimerais juste qu'elle se concentre sur son premier produit phare pour cette influenceuse, qui est les violences faites aux femmes. Et c'est un sujet vraiment important. Et donc, lorsqu'elle parle de tolérance zéro dans les quartiers, il faudrait déjà qu'elle commence par Beauvau. Après, on en parlera.
Allez, tout de suite, messieurs, nous allons démarrer ce premier sujet. Le débat national sur la consommation de drogue. Ça fait des années qu'on en parle. Dépénalisation, pénalisation, enfin, je vais faire un tour de table. Je voudrais vous entendre, évidemment, sur la consommation de drogue. Comment en finir avec, évidemment, est-ce qu'on peut parler d'un enjeu? Est-ce que c'est un sujet, justement, parce qu'il faut parler d'insécurité? Donc, lancer ce grand débat national, c'est aussi un sujet concernant l'insécurité. Alors, ce débat fait reculer la délinquance? Lutter contre l'insécurité, franchement, on voit pas bien comment mener ce débat et notamment où se place cet enjeu, Alexis Poulain.
L'enjeu, il se place encore une fois parce qu'on est en année présidentielle. Donc, tout est maintenant dans une optique de campagne présidentielle. Alors, il faut faire de la sécurité. Alors, il faut aller draguer l'électorat réactionnaire. Alors, il faut parler de choses dont on ne parle pas en temps normal. Hein. C'est marrant, c'est d'un seul coup. Alors que pourtant, le député Lambert, lui, porte depuis longtemps un projet de dépénalisation, bien sûr, du cannabis, de légalisation aussi. C'était le cas de Jean-Luc Benamias aussi, il y a bien longtemps aussi. Enfin, il y a un courant dans ce pays qui depuis longtemps, milite pour la légalisation, et on n'en parle jamais. Ou alors les débats n'ont jamais eu lieu à l'Assemblée et on le met sous le tapis. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a un président qui dit oh non, moi je suis plutôt pas pour parce que la drogue c'est mal, en reliant ça au crime honteux de Sarah Halimi par un délirant à l'époque. Enfin bref, la justice a rendu son verdict et tout ça est instrumentalisé, utilisé, et on met la drogue là au milieu. Je crois que c'est pas un débat qui peut avoir lieu dans le cadre d'une année préélectorale présidentielle, c'est après. C'est-à-dire, une fois élu, soit on le met dans le programme et on dit on aura un vrai grand débat national, parce que il est important ce débat. Derrière, il y a une économie parallèle, il y a aussi le risque de...
Il a dit, ne laissez aucun répit aux trafiquants de drogue.
Oui, mais ça c'est trop facile de dire ça.
C'est trop facile.
Parce que, en réalité, s'attaquer aux petits points de deal, c'est pas s'attaquer au trafic, c'est les mafias qui s'occupent du trafic. C'est pas le petit dealer de quartier qui, lui, finalement, profite de ce qu'il a pour essayer de vivre avec ce matériel-là. Mais on n'en a pas parlé, mais il y a eu dans les ports des Pays-Bas, arrêté un grand réseau, justement, de trafic qui utilisait OcloChat, c'est un chat crypté, privé, qu'utilisaient tous les grands délinquants et les mafias. Derrière, on a trouvé des salles de torture, on a trouvé vraiment là où est le mal, c'est-à-dire que là où est le trafic de drogue. Aujourd'hui, les gros trafics, que sont le trafic de cocaïne et autres, quittent l'Amérique du Sud pour l'Europe, parce qu'en Europe, ça coûte plus cher à vendre et les peines de prison sont moindres. Et donc, tous les gros narcotrafiquants sont en train de trouver que l'Europe est un pays de cocaïne. Et que fait... Là, ça est vraiment devenu industriel. C'est-à-dire, quand je vous parle, et ça se passe où? Dans les ports, bien sûr, où ça arrive. Ça se passe au niveau international, pas seulement ici en France, quand on va aller prendre quelqu'un chez lui parce qu'il a fait pousser deux plants de bœufs. C'est n'importe quoi, ça. Et donc, à un moment, il faut une réflexion réelle de lutte contre les mafias, pas contre le trafic.
Alors,
c'est beaucoup plus large.
Pas aux mafias, alors?
Bonne question. Bonne question, n'est-ce pas?
Aklim Alouli.
Alors, il faut qu'on se mette d'accord parce que c'est justement ça, les débats préélectoraux, ça amène beaucoup de confusion. Est-ce qu'on parle de dépénalisation ou de légalisation? Parce que c'est deux sujets différents.
Oui, il y a deux choses.
Parce que là quand on tu parles de faire la chasse ou des trucs, c'est la pénalisation. Ça, le débat se pose pas. Il faut pas. Ensuite, la légalisation. Aujourd'hui, on sait quand même tous les addictologues mettent les choses sur la table parce qu'il y a quand même beaucoup de gamins qui consomment des choses qui sont coupées et qui sont plus addictives que du chanvre brut, etc. Il y a tout un débat à avoir. Il y a des drogues de synthèse. Et puis il y a aussi aujourd'hui, et on l'utilise déjà de façon thérapeutique aussi. La question, en plus, ça permettrait effectivement de mieux contrôler la qualité des addictions, etc., d'avoir un travail dessus. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a quand même des gens qui en vivent. Moi, je prends par exemple le RIF qui travaille là-dessus. Pour finir.
Je suis obligé de lancer la pub.
Ah oui,
on va s'arrêter sur
le RIF. Parce que je ne voudrais pas que les gens du RIF pensent que je les attaque alors que je veux les défendre.
Non, mais justement, on marque une page pub et on se bio et de qualité. Et on se retrouve à tout de suite. Ne bougez pas, restez avec nous. Le grand débat continue. Voilà,
le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 16h-18h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Il est 16h58 précisément. Je vais redonner la parole à Aklim Alouli pour pas qu'il me croie, justement, que je suis là pour le censurer. Pas du tout.
Mais
vous me connaissez, Aklim.
Ce moment où je parlais du RIF, et effectivement, qui sont producteurs, et qui aujourd'hui essayent de travailler, des gens qui travaillent sur justement d'autres débouchés par rapport aux chanvres, notamment comme la construction, comme le savon et d'autres produits dérivés, et on les aide pas au développement. Donc à un moment donné, derrière tout ça, il y a aussi des économies qu'il faut regarder. Il faut pas, c'est bien beau de regarder ça de chez soi et de dire voilà, c'est comme ça, mais si on laisse le trafic sur notre projet, justement, on favorise ça. Alors que si on met les choses sur la table, on peut construire des logiques de développement ensemble, de réflexion, de travail, qui pourraient apporter des solutions. Moi, je trouve que aujourd'hui, le débat doit être apaisé, comme sur la laïcité. Soit c'est un vrai débat avec des gens qui pensent effectivement différemment, parce qu'aujourd'hui, la vraie difficulté, comme le disait Alexis tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas le droit de ne pas penser comme les autres. Si on ne pense pas comme les autres, on est forcément islamo-gauchiste.
Alors,
et donc, on est disqualifié. C'est insupportable.
Alors, est-ce qu'il faut se lancer dans ce débat national sur la consommation du cannabis en France? Oui,
bien, bien sûr qu'il faut avoir le débat. Oui, mais il y a 10 ans, je le disais, on parlait d'autres. Il y a 10, 15 ans qu'on a dû l'avoir. Après qu'on prenne une position, Adil. Mais il ne faut pas confondre légalisation et dépénalisation. La pénalisation, c'est logique, il faut poursuivre les trafiquants. Oui. Par contre, la légalisation, c'est des circuits organisés, travaillés, surveillés, protégés. C'est aussi une façon de protéger. Parce que de toute façon, aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut voir le nombre de consommateurs qui explosent et de plus en plus jeunes.
Donc une véritable réflexion autour de justement l'usage du cannabis en France. Qui veut prendre la parole? Ahmed Wendjebourg.
Oui, je paraphrase le président qui a dit « Il ne faut laisser aucun répit aux trafiquants de drogue afin de faire reculer la délinquance ». Sans blague. Plus sérieusement, oui, il faut un débat pour une raison simple, c'est qu'il y a une problématique intéressante, c'est que la France est le pays en Europe où la répression est la plus forte.
Et la consommation ne cesse d'augmenter et d'augmenter et d'augmenter.
C'est vrai.
Et les pays qui ont évolué dans, le sens dans un sens favorable dans le domaine de la drogue, sont les pays qui ont fait, mis une dose d'un un tiers de prévention, un tiers de répression et un tiers de soins, quand on parle de drogue dure, et orienter le débat que sur, parce qu'il a fixé le cadre du débat, il l'a orienté que sur l'aspect sécuritaire.
Sécuritaire, effectivement.
Voilà, encore du cynisme et encore de l'opportunisme à la veille de l'élection présidentielle.
Bon, bah écoutez, je ne sais pas si on peut l'appeler ça.
Bah si, bah bien sûr que si.
Il est 17h tout de suite, c'est le quoi de neuf.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
Philippe, je reviens. Nous recevons nos éditorialistes. Maître Philippe-Henri Honegger, chez Ruben et Associés. Bonjour mon cher maître.
Bonjour Adil, comment allez-vous?
Mais très bien, tout va bien?
Oui, ça va très très bien même.
Vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur autour d'un enjeu concernant la décision de la Cour de cassation autour de l'affaire Sarah Halimi. On vous écoute, mon cher maître.
Et oui, parce qu'on commence à bien connaître, à même très bien connaître, cette règle d'or de notre gouvernement. Un fait divers, une nouvelle loi, un fait divers, une nouvelle loi. Peu importe que la nouvelle loi qu'on va nous pondre n'apporte rien de nouveau, qu'elle soit absurde ou de toute façon inconstitutionnelle, l'important, c'est de montrer qu'on fait quelque chose. Et là, en l'occurrence, faire quelque chose, c'est montrer qu'on s'oppose à l'application de la loi qui a été faite par la plus haute cour judiciaire de France. La décision qui a été rendue par la Cour de cassation ne plaît pas à l'opinion publique qui, en réalité, ne la comprend pas. Eh bien, tant pis, il faut satisfaire le peuple. On n'a qu'à faire une loi qui vient dire que la Cour de cassation s'est trompée et qu'il faut juger les fous. Parce que ce qu'on nous propose depuis quelques jours, c'est de changer la loi en disant « il faut juger les fous ». Parce que, en fait, la Cour de cassation n'a jamais dit autre chose que « il ne faut pas juger les fous ». Elle a dit très clairement « si vous prenez du cannabis et que vous avez des bouffées délirantes qui vous conduisent à tuer quelqu'un, vous êtes responsable pénalement. Mais si cette bouffée délirante n'est pas le fait de la prise de cannabis, alors vous êtes irresponsable et c'est ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans cette affaire-là, qui a ému, et on peut le comprendre, l'opinion publique qui peut-être ne comprend pas forcément les subtilités du droit, mais nos hommes politiques auraient dû être des intermédiaires qui seraient venus expliquer ça. Ben non, ils disent non. Il faut absolument faire une nouvelle loi parce que les gens s'offusquent et que ça leur convient pas. Mais enfin, si vous voulez changer les choses, tant mieux. Mais le problème, c'est que dans quel sens est-ce qu'on va changer les choses? Parce que à part venir dire qu'il faut absolument juger les fous, il y a rien d'autre qu'on peut changer. Et puis, vous savez, le problème, c'est que le droit, par ailleurs, prévoit tout un tas de choses qui auraient pu permettre et qui permettent de satisfaire, dans ces cas-là, les victimes. Alors certes, on n'envoie pas les fous en prison, parce que juger quelqu'un qui est fou, c'est lui pas lui donner les capacités de répondre. Mettre en prison quelqu'un qui est fou, c'est un danger pour lui-même et pour les autres. Mais enfin, il existe quand même des procédures pour les parties civiles, pour une indemnisation aux civils, c'est-à-dire que les proches et les victimes de cette infraction pourront les demander indemnisation. Il existe une procédure, d'ailleurs, qui a eu lieu devant la Chambre de l'instruction, dans lequel on dit voilà qui est l'auteur désigné par la justice des faits, il est irresponsable pénalement, on ne peut pas l'envoyer en prison, mais il est responsable, en tous les cas, il est coupable de l'infraction qu'on lui connaît. On a même appliqué à ce monsieur 20 ans de sûreté, c'est-à-dire que pendant 20 ans, il sera suivi en psychiatrie, il sera surveillé par la justice pour s'assurer qu'il ne recommence pas. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Une réponse judiciaire, une indemnisation des victimes, une surveillance des auteurs. Bah, la nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle va nous dire de plus que ça, à part que il faut juger les fous, mais la prochaine fois qu'on aura un chien qui mord quelqu'un, on dira il faut juger les chiens. La prochaine fois qu'on aura une avalanche, il faut juger la neige. Un tremblement de terre, il faut juger la terre. Et puis il faut mettre tout le monde en prison. Et ça tombe bien, puisqu'on a prévu 15 000 places nouvelles de prison dans les prochaines années. Créons des prisons pour la neige, pour les chiens, pour la terre, pour les animaux, pour tout ce qu'on veut. C'est très dommage, très très dommage que cette loi de un fait divers, une nouvelle loi, vienne simplement découdre et déconstruire 200 ans de sagesse, d'intelligence, de construction de nos systèmes judiciaires français, et que cette nouvelle loi de l'émotion décide de tout mettre à mal, mais peut-être qu'un jour on jugera ceux qui décident de défaire les lois.
Vous avez dit tout à l'heure, maître Philippe-Henri Honegger, que ça avait beaucoup ému évidemment l'opinion. Appel à la mobilisation a été décidé donc ce dimanche, hein, à la place du Trocadéro à Paris,
bah oui,
contre la décision de justice justement de cassation, la Cour de cassation.
Vous avez vu ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de saisir, de porter plainte en Israël parce qu'ils estiment que là-bas, ils auront raison. C'est-à-dire que non seulement on n'est pas d'accord avec le droit français, mais qu'en plus, si vous voulez, on dénigre absolument notre système judiciaire. C'est-à-dire que demain, il y aura une femme adultère en France, France, bah, y a quelqu'un qui va aller saisir une cour au Pakistan, je ne sais où, pour essayer de la faire lapider. Ou un meurtre, on va aller saisir une cour aux États-Unis pour avoir l'application de la peine de mort. C'est-à-dire que non seulement on dénigre les cours judiciaires, on respecte plus le système, mais on le dit, ah oui, mais c'est au nom des victimes. Bah, au nom des victimes, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais peut-être qu'au nom des victimes, on peut aussi respecter notre justice et notre système judiciaire.
Eh bien, merci pour ce billet d'humeur, mon cher Philippe Henri Honegger, cher Ruben et associé. Merci, à la semaine prochaine, sans faute.
Merci à vous.
Avec plaisir. Au revoir.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
17h05, Philippe Nadji Bouriaki. Justement, alors, concernant le grand débat autour du cannabis.
Alors moi, à la différence de Mohamed, je vais paraphraser le futur président de la République, M. Yannick Jadot, dont j'espère de tous mes voeux, Inch'Allah. Ah. Et c'est un vrai débat, et Akli l'a bien précisé. Il faut qu'on s'assoie tous autour de la table, mais il faut exclure personne. Il ne faut pas exclure le corps médical, le corps scientifique. Faut rappeler que dans un grand pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui est un pays très répressif et très puritain, dans plusieurs États, le cannabis récréatif est autorisé. Faut aussi reconnaître que le cannabis, que le THC, a aussi des vertus médicales pour atténuer des douleurs. Je parle à tous celles et tous ceux pour qui j'ai une pensée qui souffrent du cancer et d'autres pathologies très violentes et qui font que le THC et d'autres dérives moléculaires du cannabis et de ses plantations de chanvre surtout apportent un confort physique et psychique. Il faut aussi regarder l'état des prisons aujourd'hui. Combien il y a de personnes qui sont en prison? Je ne parle pas des Sarkozy qui peuvent passer à travers, des Hortefeux et compagnie. Je parle des petits dealers qui surfent sur un secteur qui fonctionne très bien, qui rapporte des milliards d'euros visiblement d'après ce qu'on nous dit. Alors, ça serait mieux qu'il y ait une TVA dessus et que ça nous rapporte à nous et que ça serait justement un impôt Covid, pourquoi pas. On a des exemples tout autour de nous, en Suisse, en Belgique, en Espagne, où vous rentrez dans des pharmacies, où c'est suivi, c'est encadré. Il ne faut pas être très faible là-dessus. Le cannabis est aussi une drogue. Et il a aussi des côtés psychiques qui ralentissent les facteurs de manière cognitive, etc. Et s'il n'y a pas tout un suivi derrière d'accompagnement pour éviter que ça ne soit pas une dépendance forte, parce que le problème aussi, quand vous avez dit ces fameuses drogues douces, vous avez des gens qui fréquentent le même milieu.
Je vous écoute alors
des drogues dures.
De tout cela. Alors quel intérêt de lancer ce débat national alors?
Mais
tout le monde les réclame depuis des années.
Mais maître vient de le dire à l'instant. On est dans une start-up nation tout en haut de notre pyramide exécutive. Et celle-ci fonctionne à l'émotion, fonctionne au sondage. Ils n'ont pas de colonne vertébrale, ils n'ont pas de direction. C'est la vérité.
Je pense que c'est pas une histoire simplement électorale. Je vais redonner la parole à Alexis Poulain. Non, parce que il y a quand même des médecins qui, quand même, et des experts. Vous allez pas me dire le contraire. Qui réclament une seule chose. Qui réclament, vous savez quoi, une véritable réflexion autour de la consommation du cannabis en France. Mais je rêve pas.
Le cannabis a dit là.
Oui,
il demande une réflexion parce qu'il y a des vertus thérapeutiques. Il y a même dans les EHPAD, c'est utilisé. Donc il faut arrêter de.
Bien sûr.
Alors faut arrêter de dire que c'est
le problème, c'est que
la façon dont le débat arrive dans le débat national est de manière purement électoraliste. C'est bien le problème. Parce que le débat, si on veut l'avoir, il faut le faire sereinement, exactement, pas dans le cadre d'une date d'élection, parce qu'on sait que ça va agiter les passions. Il faut dépassionner ce débat-là, parce que ça fait des années qu'on devrait l'avoir, en réalité, sur le cannabis. Parce que c'est autre chose. Il y a la question, bien sûr, du risque d'ouvrir les marchés à des drogues plus dures. On l'a vu aux Pays-Bas, ils sont revenus un peu en arrière. Il y a la question aussi des filières. Vous allez dire, ok, on dit d'accord, c'est légalisé. Qui va cultiver? Qui va vendre? Est-ce que c'est finalement les géants, l'État ou les géants du tabac qui vont récupérer la mise? Comment vous gérez tout ça?
Oh, mais attendez, Alexis Poulain, moi je vais vous donner quand même quelques chiffres que j'ai en ma possession. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas qui l'a dit d'entre vous, la France est le champion d'Europe, d'accord, en matière de consommation de cannabis, avec à peu près 1,5 million d'usagers réguliers.
Et de dispositifs répressifs.
Alors, je vous pose la question, elle est très simple. Est-ce qu'il faut briser ce tabou?
Bien sûr, il faut briser. Mais il faut des lois qui encadrent, qui sécurisent, comme sur la qualité des produits, sur aussi éviter les dérives chez les jeunes. Bien sûr, c'est pas l'idée, c'est pas que ce soit open bar et que du coup vous passiez un cap et qu'on soit, parce que toujours on va vous vendre l'idée que le cannabis est la drogue d'entrée vers des drogues plus dures, ce qui est pas prouvé par aucune étude.
Mais si vous voulez, ils ont quand même le même cercle. C'est tout ce qui est parallèle, tout ce qui est obscur, tout ce qui est caché, on s'en trouve dedans. Faut juste rappeler que les agriculteurs français, faut savoir qu'aujourd'hui en France, on produits du chanvre.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Légalement. Hein. Oui. Donc les agriculteurs français dans les Vosges, dans le Jura, ne demandent que ça, d'être encadrés et que ça soit ponctionné, qu'on paye une taxe dessus, que ça soit de manière suivie, accompagnée et qu'on lutte contre toutes les...
Et les effets délétères, on n'en parle pas ?
Filières, bien sûr que si.
De la drogue, c'est du trafic. C'est aussi de l'économie parallèle. Mais si ça devient une économie publique encadrée...
Je peux poser une question. Tu me dis, est-ce qu'il faut avoir le débat ? Est-ce que sincèrement, dans ce pays, faire de la politique, c'est faire l'autruche ? C'est mettre, quand on a des sujets épineux. Bravo. Faire de la politique, c'est avoir du courage. Ouais. En politique, il faut du courage. Quand Badinter a aboli la peine de mort, c'était pas dans l'air du temps. Là, aujourd'hui, on a des gens qui font de la politique avec des suffrages et des influenceurs. C'est pas faire de la politique. La politique, c'est être utile aux gens, c'est changer la vie des gens. Et aujourd'hui, tel que c'est fait, dans le trafic obscur, il y a des tellement de mélanges et tout ça, que c'est encore plus dangereux et plus nocif. Les agriculteurs vous le diront, pour les gamins qui le consomment. Donc, soit on continue, on reste campé sur son idéologie, sur ses dogmes, et on fait rien avancer, soit on a le courage de faire de la politique et de toucher à tout et de dire on débat.
Alors est-ce qu'Emmanuel Macron a le courage de faire de la politique là ? Non mais quand il lance ce grand débat, est-ce que c'est un courage politique ou pas ?
Mais pas la façon dont il prend le débat. Il le prend d'une manière totalement réactionnaire en disant que la drogue c'est mal et qu'il n'y aura pas de débat. C'est pas un débat ça.
Adil, tu peux pas poser un débat. On peut pas poser un débat, il a raison. Tu peux pas poser un débat, c'est comme pour la cité. Tu peux pas poser un débat aux gens en disant on va débattre, mais je vais vous dire ce qu'il faut dire. Il y a un problème quand même.
Adil, en plus, ce que dit
Alexis Poulin.
Alexis, c'est tout à fait vrai. C'est la temporalité qui est gênante. Débat doit avoir lieu de manière sereine. Et là, il est clair qu'à la veille des présidentielles, il ne peut pas être.
On est à 18 mois des élections.
Donc c'est de l'opportunisme. Moi, pour tout vous dire, pour blaguer un petit peu, quand j'ai entendu parler de ce grand débat sur la drogue, comme dit un ami qui s'appelle Najim B en Avignon, je croyais que c'était parce que le chichon permettait de tuer le corona. Je pensais que c'était ça, mais sinon, aucun intérêt de le faire maintenant, et c'est de l'incantation. C'est de l'incantation, pour la mise à part, c'est tout à fait de l'incantation, et c'est encore une fois, on est en train de nourrir des sujets qui vont retomber sur la gueule de ceux qui l'ont jeté sur la
place. Vous disiez quoi ? Pardon ? Je vous ai interrompu ?
Non, mais pour conclure, je dis oui, effectivement, nous, vous savez, notre position chez les écologistes, qu'on est pour la légalisation et la
dépénalisation. Un petit coup de campagne, allez.
Vous invitez un politique.
En plus, c'est vert. Il a place tout de suite, hein.
Nous, on a eu le courage il y a quelques années d'avoir un débat en interne. Il y avait des gens qui étaient partagés. Il y a eu un vote, etc. Mais on est effectivement pour une production locale et bio, bien évidemment.
Messieurs,
on veut la liste des agriculteurs dont nous a parlé tout à l'heure Philippe.
On la veut.
Ce sont des copains.
Absentéisme, deuxième sujet, messieurs, du 7h12. Absentéisme scolaire. Le Sénat, il veut voter la possibilité de suspendre les allocations familiales. Je vous vois soupirer, oui, à Climelouli. La majorité de droite et du centre a inséré un nouvel article, justement, projet de loi sur le respect des principes de la République. Vous nous fatiguez, j'ai envie de vous dire, parce que cette histoire, moi, je l'ai entendue sous le règne de Chirac, déjà. Ouais. Chirac, je me souviens de Chirac, où déjà on parlait. Vous êtes absent en banlieue, on parlait des quartiers des populaires. On disait, vous êtes absent, et ben vous retirez les allocations familiales. À Climelouli. Coup de gueule, je le sens.
Mais sérieusement, ça refait surface. C'est des trucs qui remontent à chaque fois, et on parle de période électorale et d'agitation pour exister. Sincèrement, il y a des gens qui sont déjà pénalisés. Qui aujourd'hui, quel parent, moi je vais dans les quartiers, je suis élu de banlieue, hein. Je suis pas élu du Sénat ou même si il y a des élus de banlieue qui sont en train de nous penser des lois. Ouais. Moi, je vois tous les parents sont dramatisés de voir leurs enfants quand ils vont pas à l'école.
Esther Benbassa, la collègue justement de Philippe Nariboké, vous savez ce qu'elle dit ? Croyez-vous qu'on peut éduquer des parents en les punissant ?
C'est ça. Et donc je dis, on va encore rajouter, on les stigmatise. On leur rajoute de la problématique à la problématique. C'est pas l'éducation, c'est pas en rajoutant des problèmes aux gens. On va encore les pénaliser. Donc ils vont encore, si effectivement les allocations leur servent à vivre aujourd'hui dans la difficulté, on va les proposer des avantages. On va leurs enfants, ceux qui y sont trucs, vous direz, voyez, la République fait rien pour vous. Et donc en clair, on va créer de la problématique là, il y en a pas. Et moi, je trouve que ce débat sur effectivement la suspension des allocations familiales revient tout le temps. Et comme par hasard, on pourrait penser, alors je le dis, hein, pour les gens qui nous écoutent, qu'il y a aussi des familles françaises beaucoup de plus en plus, si on sait des enfants sont nombreux et qui habitent dans ces quartiers au cas
où. Mais là, on parle tout de même d'absentéisme scolaire.
Mais en disant
scolaire.
On cible dans les quartiers, on cible encore une partie de la population de façon souvent insidieuse et indirecte, parce que ceux qui touchent les allocations connaissent un peu le débat.
Mais c'est pour lutter, c'est pour la lutte contre l'absentéisme scolaire.
Ça ne règle pas l'absentéisme.
Évidemment.
Quelqu'un qui ne va pas à l'école, c'est pas parce que tu retires les
allocations. Alors, dans l'ordre. Alexis Poulain, ensuite Mohamed et Philippe Nadjiboué.
C'est exactement ça. C'est tellement vieux comme faux débat. Le fait de dire il faut punir, il faut montrer du doigt, il faut dire que c'est pas parce qu'on va enlever les allocs qu'effectivement le problème de l'absentéisme scolaire va être réglé. Et puis c'est pas le problème de l'absentéisme scolaire le problème, c'est le décrochage. Voilà. C'est qu'est-ce qui fait qu'on n'éduque pas les enfants de la République. Alors c'est pas en punissant les parents parce que le gamin de toute façon l'école est pas faite pour lui que ça va fonctionner. Et alors la grande mesure sociale de ce quinquennat c'était de dédoubler les classes de CP. En disant, ah ça c'est une grande mesure sociale. Bon super, mais qu'est-ce qu'on fait après? Aujourd'hui on voit c'est le flou total et on reste dans des classes surchargées et on reste aussi bien sûr dans des quartiers prioritaires, les zones d'éducation prioritaires devenues maintenant, je sais pas, on change tout le temps de nom, on change les cartes également, hein, y a l'absence de mixité à l'école. Non, c'est ça le vrai débat, c'est comment on a fait pour que aujourd'hui on soit partout à peu près où on regarde dans ce pays face à des échecs, face à des fiascos, face à des ghettos totalement créés de toutes pièces par justement le séparatisme.
N'est-elle pas justement en train de s'américaniser, justement. On va marquer une page pub. Ouais. On se retrouve et je vous redonne la parole, y compris tout de suite après 17h16, 01 53 48 3000, vous aussi partout en France. Si vous souhaitez, on vous attend au standard pour évidemment venir vous livrer, votre point de vue. À tout de suite, ne bougez pas.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 16h-18h, le grand déballage avec Adil Farkan.
17h24, le grand déballage en direct, 01 53 48 3000, vous pouvez intervenir quand vous voulez, évidemment, le standard est ouvert. Avec Alexis Poulain, le fondateur donc du Monde Moderne, je vous invite à aller le voir. Avec Akli Meleli, maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne, avec Philippe Nadjibouariaki, qui lui est candidat au régional pour Europe Écologie Les Verts. Et ensuite, enfin, un conseiller en communication, Mohamed Benjebourg. Justement, je donne la parole à Philippe Nadjibouariaki concernant la discussion du cadre. Alors, l'absentéisme scolaire, la lutte contre l'absentéisme scolaire, peut-il passer par la suspension des allocations familiales?
Moi, je propose dans un premier temps qu'on mette un âge pivot pour être sénateur, parce qu'à un moment donné, on doit freiner, on doit être en plein dans la sénilité, et tu vois qu'ils sont devenus complètement barges. Quel parent, quelle maman isolée.
Pourquoi cette punchline?
Mais punchline, tout simplement, c'est qu'il y a quelques temps, ils ont voté un amendement pour empêcher les femmes voilées de faire les sorties scolaires. On voit bien qu'ils sont dans le populisme le plus total, et je voudrais juste leur dire qu'on vit au 21e siècle, qui en a changé de siècle et de millénaire, on s'excuse pour eux. Donc à un moment donné, il faut qu'ils reviennent à la réalité. Quel papa, quelle maman, ou quelle surtout maman isolée dans nos quartiers, dans nos ruralités, souhaite un échec scolaire pour son enfant? Ça n'existe pas. Quand vous êtes maman isolée, que vous avez plusieurs enfants, ou même un enfant, que vous partez tôt le matin, que vous faites souvent les métiers les plus indécents, avec des horaires inhumains, souvent en coupure, vous n'êtes pas là pour pouvoir accompagner, suivre, conseiller votre enfant. Vous voyez, l'État, au lieu d'être un État punitif, il doit être un État, la liberté, égalité, fraternité. La fraternité, on devrait même rajouter un dernier mot, la solidarité. Vous voudriez qu'on mette tout le système éducatif et parallèle, extra périscolaire, pour pouvoir accompagner, détecter, sensibiliser, travailler en amont avec des éducateurs spécialisés. On les a retirés, on a retiré la police de proximité, on a retiré tous les moyens publics pour permettre l'égalité des chances. Là, voilà la réalité. Alors, peut-être qu'on devrait leur diminuer leurs indemnités, on devrait les imposer plus, on devrait leur dire, écoutez, quand vous avez fait un mandat, vous n'avez pas à toucher 1 500 euros quand vous avez en retraite, et ainsi de suite. Et peut-être qu'ils auraient les pieds un petit peu plus connectés sur la terre. C'est juste indécent. On est en train de paupériser une situation très difficile. Ces gens-là qui sont dans la grande misère, on leur dit, on va vous mettre un coup supplémentaire parce que vous êtes incapable de pallier au manque de la République.
Moi, c'est toujours les mêmes, de toute façon. On voit qu'on fait la chasse aux pauvres dans ce pays. C'est ça le séparatisme, c'est un séparatisme de classe. Pourquoi, quand on a un casier judiciaire long comme le bras, on peut encore se présenter? Georges Tronc est en prison, on lit ses lettres au conseil de travail. Depuis la prison, il écrit et on lit au conseil municipal les lettres de Georges Tronc. Il est toujours là. Ce pays marche sur la tête. C'est-à-dire que soit on est un pays corrompu et on l'accepte, alors on s'appelle plus la France, soit on est une république et on est une république exemplaire, et dans ce cas-là c'est liberté, égalité, fraternité, et à ce moment-là c'est la loi, elle est la même pour tous, et on n'a pas à montrer du doigt, et surtout pas justement des populations en voie de précarisation, en difficulté, où on va leur mettre la tête sous l'eau. Alors à ce moment-là c'est très simple, les élus qui sont condamnés, ils n'ont plus le droit de se représenter, ou ils vont vraiment en taule.
qu'à ce moment-là, ils fassent vraiment de la tôle. Et puis on en parlera de la justice. Ça m'énerve, cette justice, enfin, c'est cette vision de la société à deux vitesses où les pauvres se prendront toujours des coups de gourdin, l'hôpital est la chaîne.
Et vous n'êtes pas le seul. Et vous n'êtes pas le seul. Mohamed Benjebourg, 0153483000.
Alors, dans le droit actuel, les autorités, elles sont pas dépourvues de moyens de pression pour les familles. Ça existe déjà. Il y a eu par le passé, de 2006 à 2013, le contrat de responsabilité parentale aussi qui fonctionnait. Donc, il y a des choses qui existent et comme d'habitude, on rajoute une feuille au millefeuille et le millefeuille s'épaissit. Moi, ce que je voulais dire, c'est que.
Le millefeuille s'épaissit.
Moi, je voulais. Pardon pour ceux qui font leur maintenant, parce que ça donne faim, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est coupable de mettre le sujet sur la table, encore une fois, c'est coupable de donner le ton de la future campagne présidentielle en l'accent sur des sujets stigmatisants, c'est coupable car on sait qui va en tirer les fruits. Ce sont les extrêmes, et en particulier le Rassemblement national. Ça, c'est sur la forme. Ce que je voulais dire, et par quoi le sujet sur lequel je voulais terminer, et sur le fond, c'est qu'on ne peut pas traiter ce sujet sans aussi faire un peu le grand débat sur l'école. Sans que l'école ne se remette en cause, et pas seulement les parents. Si l'enfant ne va pas à l'école, on ne réglera rien si on ne traite pas aussi ce sujet. L'école est le seul service de l'État qui n'a pas évolué. Même la Poste, c'est dire, ou la SNCF ont évolué, et de belle manière. Donc pourquoi on ne se met pas autour d'une table et qu'on parle du grand sujet de l'école?
C'est pas mal, c'est bien dit.
Mais c'est aussi un sujet.
Non, sur la SNCF, on peut en parler.
Franchement, on enseigne comme on enseignait il y a un siècle, alors que la moitié des jobs qui existent aujourd'hui n'existeront pas dans 20 ans. C'est un problème. C'est quand même un des services qui a le moins évolué. Et j'adore, et mon parcours personnel fait que l'école m'a tout donné, et c'est pour ça que j'essaie de rendre au maximum à la République ce qu'elle m'a donné. C'est grâce à l'école et à mes différents instituteurs, profs, etc.
C'est vrai.
Mais aujourd'hui, ça n'empêche pas de se poser des questions aussi et de faire un grand débat pour le coup, et pas à la veille d'une présidentielle, mais sur l'école.
Sur l'école, alors moi je dirais sur l'éducation, parce que le vrai débat à l'école n'est pas tout seul, l'éducation c'est un concept. Alors moi il y a une chose, effectivement tout à l'heure Philippe voulait rajouter solidarité, mais je dirais que dans les principes de la République, c'est déjà la fraternité, c'est la bienveillance. Et une loi doit être bienveillante, elle doit aussi être une protection. Et moi il y a un truc que personne n'a relevé avec moi qui je trouve insultant.
Alors dites-nous.
C'est d'essayer de tenir les gens par l'argent, par la bourse. C'est insultant et mercantile. Et ça, c'est pas digne de politique. Parce que ça, c'est une injustice. Bientôt, ils vont acheter les voix, et donc on n'est pas dans un sujet où les gens... Et après, on va leur parler de valeur aux gens. La valeur, c'est ça qui doit faire
sens. Vous êtes en train de dire qu'on les tient par l'argent, là, justement.
On essaie. Non, mais là, on voudrait les dire qu'on va les tient par l'argent. Donc, en fait, on les insulte en disant ça. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui auraient des enfants le feraient que pour l'argent. Les gens qui prennent leurs allocations familiales, ce serait pas un dû en juste retour de ce qu'ils cotisent, ce serait quelque chose qui leur serait donné gracieusement, alors que c'est un dû. Donc, on est en train, aujourd'hui, encore une fois, comme le disait Alexis, de stigmatiser les classes populaires les plus pauvres ou les plus démunis. Et d'ailleurs, les allocations familiales, c'est pour tout le monde, d'ailleurs, au passage, parce que ça ne touche pas que les plus démunis, tout le monde a le droit, c'est à partir du nombre d'enfants, etc. C'est la même chose pour tout le monde. Et voilà, mais moi je trouve ça insultant. Et je trouve que quand les politiques insultent leur peuple, ça devient grave. C'est pas la démocratie. Insulter le peuple, c'est la dictature.
Alors est-ce que vous
comme
allez.
Dirait Sarkozy, quelle indignité.
Alors est-ce que vous allez continuer justement d'être indigné? On va parler de ce troisième sujet. Le discours point presse hier de Jean Castex, notre Premier ministre. Oh putain, j'ai entendu dire d'Alexis, ça vous. Vous l'avez lâché là, c'était tellement venu du cœur. C'est sorti tout seul. Alors justement, les annonces détaillées, le suspense était justement au plus haut. Il était en tiers depuis hier, hein, justement. Et le déconfinement, comment va-t-il s'organiser en France? Alors, on va en parler justement, messieurs. Vaccination, rentrée scolaire, déplacement autorisé. Oh putain, c'est ça? Le mot vous a échappé.
Non, le mot c'était renforcé, le mot clé d'hier. Tout était renforcé. Mon indignation était renforcée aussi. Je me suis endormi. Je devais regarder cette conférence de presse. Quand Blanquer est arrivé, j'étais déjà plus là. Mais vous vous rendez compte quand même, ils ont passé, c'est toujours très long cette conférence hebdo du jeudi, hein, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu lieu, des heures pour nous dire qu'on allait ouvrir les fenêtres dans les écoles lundi. Et là tu dis, waouh! Attendez, c'est ça le plan de la rentrée et Blanquer qui dit si vous pouvez faire manger votre enfant chez vous, c'est mieux parce qu'on n'a rien prévu à la cantine. Hein. Donc ce sera pareil qu'avant. Il y a le double mutant qui vient d'Inde, le variant brésilien, le variant breton. Il y a je sais pas, c'est un milkshake, c'est un shaker la France de tous les variants du monde. La courbe française hier Jean Castex qui montre les courbes européennes et incroyable. Qui efface la courbe française qui est la plus dingue. C'est celle qui est en haut et qui fait des bonnets d'âne comme ça. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il nous ment. Ils nous manipulent, ils sont là pour faire croire que c'est les meilleurs, parce qu'en plus cette conférence de presse part sur le principe que on est les meilleurs. On est quand même très bon. Avec merci monsieur le Premier ministre, merci monsieur le ministre, bon anniversaire. C'était l'anniversaire d'Olivier Véran. Ouais, il s'envoie des petites fleurs en direct à la télé.
Les 50 ans, c'est jeune.
Vous êtes encore jeune, monsieur le Premier ministre. Mais ils sont dingues. De deux choses. Soit ils ont lâché la rampe, soit ils sont fous, soit ils le font exprès. Je sais pas après quelle est la solution.
Ou alors, faut pas le cannabis.
Ou alors, faut voir ce qu'il passe. Vous les fesses tagada. Peut-être trop de fesses tagada à Matignon.
Moi, en tout cas, il m'a fait passer le temps.
Oui, moi-même,
je
dis.
Non, je voulais juste dire que ça m'a fait passer le temps avant le store. C'était très bien.
Sérieusement,
les mecs, ils veulent prendre des lois contre les mecs qui fument. Mais on devrait prendre des lois contre les mecs qui nous en fument quand même. On a assisté à un exercice de style. C'est-à-dire que les mecs, je sais rien, mais je vous dirai tout.
La punchline d'Aklimouli.
Et je pense que je demande qu'on pénalise ça fortement. Je pense qu'il faut que des mesures soient prises quand même.
Adopté, adopté.
À 2022, l'adoption.
Quand on n'a rien à dire, je veux dire à un moment donné. Et je trouve que. Alors le problème, c'est qu'effectivement, je pense qu'ils vont nous déconfiner. Mais il va y avoir un petit problème pour dire à ceux qui nous écoutent. Avec le pont, le seul pont en mai, c'est celui du 15 mai. Donc ils avaient annoncé vers le 15 mai, à mon avis, va être plutôt vers le 17 pour éviter que tout le monde se barre tous en même temps. Donc, mais c'est vrai que j'ai trouvé l'exercice. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi ils sont venus à la télé. Et t'as raison, hein, ça fait passer le temps. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens qui doivent nous faire de la politique, ils sont là pour nous, enfin, nous faire passer le temps. Je crois que là, on peut quand même se poser des questions sur la capacité du gouvernement
si
à tenir la barre.
Et au fond, vaccin, voyage, frontières, éducation.
Les mots-clés, ils sont là. Les mots-clés sont là. Le problème, c'est qu'ils essaient de nommer des trucs bout à bout, mais du coup, on ne comprenait pas où ils voulaient en venir.
Donc, on sait que le couvre-feu ne sera pas levé le 3 mai, ça, on le sait.
Ça, 19h.
D'accord. Ça ne bouge pas.
Mais 17, non ?
L'éducation, oui, c'est ça.
Il n'y a rien. C'est illisible. Il y a les autotests. Oui. Alors, les autotests, c'est deux gratuits, mais après, on ne sait pas si c'est payant, s'il faut le faire chaque semaine, si c'est le personnel enseignant et les autres. Pour les enfants, c'est les tests salivaires, on ne sait pas ce que ça vaut. C'est-à-dire qu'ils font tout pour dire on a tout fait. Et c'est pas notre faute si maintenant il y a l'épidémie. En gros, ils sont en train de border judiciairement leur responsabilité parce qu'ils sont nuls, en gros. Donc l'idée, c'est de dire on est responsable, hein, et on est en responsabilité et on a tout fait. Et vraiment, c'est de votre faute parce que je vous ai vu. Hein, toi, t'étais au resto clandestin, toi. Toi, je t'ai vu. Toi, vous avez fait la fête à plus de feu, sa table. Mais voilà. On apprend aujourd'hui le club TP90, restaurant de la Fédération nationale des travaux publics, ouvert au 90 des Champs-Élysées, où Muriel Pénicaud déjeunait il y a quelques semaines. Une conseillère de Macron y déjeunait aussi. Mais alors ça, c'est plein clandestin, c'est autorisé, hein, c'est des déjeuners d'affaires. On se fout de la gueule du monde. Donc à un moment, ça va. Nous, c'est quoi? C'est couvre-feu à 19h, c'est pas plus 6 à table, papy mamie sur le balcon. Et en réalité, c'est tout le monde se goberge en ce moment. Les jets privés volent comme avant. Regardez, Emmanuel Macron aujourd'hui, il est dans l'avion, il est au Tchad pour enterrer Idriss Déby. Ils s'en foutent. Et donc, ils nous prennent pour des idiots. Et on est bien gentil, je trouve, et bien patient de les écouter. Pour moi, ça me divertit plus. Moi, je suis passé au-delà. Je pense que la plupart des Français aujourd'hui vivent comme si ce truc-là n'existait plus. C'est-à-dire chacun fait sa vie, chacun se démerde.
Il a raison.
Philippe Nagy-Bourayaki.
Dans les fameuses mesures ou mesurettes, qu'est-ce qu'on entend? On entend que ceux et celles qui vont venir du Brésil, du Chili, d'Argentine, d'Afrique du Sud et d'Inde vont être en quarantaine pendant 10 jours. Mais ils pourront sortir de 10h à midi. Parce que justement, le virus ne fonctionne pas et ne peut pas se transmettre de 10h à midi. Et que c'est la police qui sera chargée de faire des contrôles.
Non, mais... De 10h à midi, il ne se transmet pas.
C'est énorme. C'est pas moi qui le dis. C'est quand même le Premier ministre. Attends, c'est moi qui le dis. Tu dis, bon, c'est pas grave, c'est un clown. Mais là, on a quand même un Premier ministre. Un type qui a les codes nucléaires. C'est ça que je suis en train de me dire.
Moi, j'ai peur. Je suis en train de me dire en regret presque Philippe Edouard. Edouard Philippe,
pardon. Blague à part, malgré que je ne partage pas tout avec Edouard Philippe, il avait quand même une autre stature, je dirais même une stature présidentielle. Et moi, je vous mets mon billet qu'on risque de le voir dans ces derniers temps de plus en plus pour suppléer à la défaillance de Macron, parce que Macron va se faire laminer par n'importe qui. Je pense que même si vous me mettiez moi en face de lui, je le battrais à plat de couture, en toute modestie.
C'est une déclaration.
Non.
Vous annoncez moi mon candidat, c'est Philippe Jadot. Philippe Bouriachi est candidat à la présidentielle. Il va s'annoncer à Boris Vian en direct.
Alors peut-être en 2027, mais aujourd'hui, ça sera Yannick Jadot pour moi. Je ne changerai pas, mais lorsqu'on voit les fameux 400 000 tests qu'on va nous promettre au lieu des 250 000 maintenant, lorsqu'on voit les 7 millions de doses de Pfizer, mais d'où ils sortent ces chiffres? C'est juste extraordinaire. Je crois que ça leur manquait la télé. Ils voulaient se taper une bonne partie de fou rire pour l'anniversaire de Véran. Et ben, c'est gagné. En tout cas, moi, j'ai décidé hier de les boycotter parce que je savais qu'on est encore tombé sur des mesurettes et avec une bande d'amateurs depuis un an. La réalité. Et qui nous ont toujours, tu l'as dit, Alexis, ils nous ont infantilisés depuis un an. Ils nous ont pas dit la vérité. Ils nous ont menti. Ils nous ont dit que les masques ne servaient à rien. Moi, je me rappelle d'Agnès Buzyn qui aujourd'hui était quand même à l'OMS. Attendez.
Il y en a qui savaient pas mettre les masques quand même.
Non, ouais, ça, c'était le ministre Sidi Étienne qui disait, mais ça sert à rien. Je sais pas, au lieu de nous dire la vérité. Et Agnès Buzyn, sur la première conférence de presse, elle dit, mais vous inquiétez pas, c'est confiné à Wuhan, il n'y a pas de souci, ça n'arrivera pas et ça ne risque pas d'arriver. Et ben moi, je dis qu'à un moment donné, il faut que ces gens-là soient responsables devant une juridiction compétente et celle du peuple, pas celle d'entre amis.
Absolument. Mohamed Benjebourg, tiens, on ne vous a pas entendu.
Non, si.
Ah si, vous avez entendu, ça m'avait fait passer le temps.
Ah oui, vous avez parlé de divertissement. Non, mais justement, je veux revenir là-dessus parce que plus sérieusement, Alexis a raison. C'est vaut mieux en rire. Moi, ma mère dit que toujours, il faut mieux en rire qu'en pleurer. Mais c'est vrai que le risque, c'est que monsieur Castex a été monsieur déconfinement. Il faudrait pas qu'il devienne monsieur déconfiture. Voilà, j'essayais de battre.
C'est sur ces mots que nous allons marquer une courte page pub. Et on se retrouve tout de suite après, messieurs.
C'est déchaîné aujourd'hui.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 16h-18h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Dernier sujet, messieurs, 17h45, en direct, justement avec Alexis Poulain, en direct également, le grand déballage avec Akli Melouli, en direct également aussi avec Philippe Nedjibouriaki, et enfin avec Mohamed Benjebourg. 17h45, avant de retrouver le doc pour le Quoi de Neuf, je voudrais évidemment aborder le sujet de la question, vous savez, du printemps berbère et le rapprochement avec, justement, il y a 20 ans, souvenez-vous, ça vous parle, ça, Akli Melouli, hein, la Kabylie défiait le pouvoir dans la rue. Il y a 20 ans, c'était le printemps noir en Kabylie. Aujourd'hui, le Hirak. Alors, même combat, finalement. Printemps berbère et le Hirak.
Il y avait déjà aussi en 80, il ne faut quand même pas l'oublier que le printemps on avait commencé. À mon avis, c'est les prémices. C'est-à-dire que les gens oublient que souvent, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Et ce mouvement, à la vie, c'est un mouvement que des Kabyles. Alors que les gens oublient que derrière ça, il y a eu un séminaire de Hakurun qui a duré un mois, où ils ont fait des propositions. Et ça relevait sur trois axes. Le problème de l'identité culturelle du peuple algérien, elle se pose encore aujourd'hui. Le problème de la liberté d'expression culturelle et des médias, tout ça se posait déjà à l'époque. C'était un truc qui avait été donné au FLN, hein, je dis pas, je parle de cette plateforme. Et le troisième axe, c'est le problème de la culture dans la politique de développement. Parce qu'aujourd'hui, et c'est là où aussi dans la démocratie, quand on n'a pas de culture, c'est difficile de prêter de développement. Je crois que même quand on veut être révolutionnaire, il faut de la culture. Les gens oublient que les grands révolutionnaires, les gens parlent de la rue, les grands révolutionnaires sont des gens qui étaient cultivés. Sankara, Modibo Keïta, Mandela, le Che, tout ça, ce sont des gens qui avaient une grande culture de géopolitique internationale, de compréhension. Et aujourd'hui, on doit retrouver ça. Et à un moment donné, effectivement, ce printemps, ce qu'on appelle le printemps berbère, mais qui était déjà les prémices d'une volonté, une aspiration profonde du peuple qu'on a voulu cantonner à la démocratie, etc., eh bien, effectivement, on retrouve les similitudes d'aujourd'hui. Mais pour
faites référence au Hirak.
Voilà, mais pour qu'un mouvement aille au bout, il faut aussi que les gens arrêtent de dire je parle avec lui, je parle pas avec lui, comme on l'a dit dans la démocratie, dans le débat. Il faut que les gens arrivent à se mettre autour d'une table, qu'ils soient d'accord ou pas, pour essayer de réfléchir à l'utilité et à l'intérêt de l'Algérie, parce que c'est d'Algérie qu'il s'agit, pour justement avancer à créer les conditions d'un pays plus agréable, plus démocratique, plus ce que tu veux, mais ça ne pourra pas se faire sans les uns ou sans les autres. Ce sera ensemble, dans un dialogue apaisé, serein, avec des gens qui ont une culture politique et une culture générale importante.
17h47, avant de retrouver les autres au point de vue justement des débatteurs, de nos influenceurs. 17h47, c'est le Quoi de Neuf avec le docteur.
Le grand déballage, le Quoi de Neuf.
Bonjour mon cher docteur Majid, c'est aussi. Bonjour docteur.
Bonjour Adil.
Bonjour chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi à l'hôpital aux Invalides chez les militaires. Merci docteur d'être avec nous, comme chaque vendredi, et votre billet d'humeur aujourd'hui. On va parler de cannabis, de la consommation du cannabis. Ah, on vous écoute mon cher docteur.
Tout à fait. Figurez-vous mon cher Adil qu'Emmanuel Macron a fait une chute de son lit, et en tombant, il a eu une grande idée.
Ah.
Lancer un grand débat national sur la consommation de drogue et ses effets délétères. De deux choses l'une, soit il a passé une soirée en tête-à-tête avec Marlène Schiappa qui lui a bourré le crâne de ses bonnes idées. soit il a écouté en boucle la chanson des Inconnus « Le feu ça brûle et l'eau ça mouille
». Ah, les punchlines, Majid.
Décidément. Pour ma part, je suis tout de même étonné qu'il faille un grand débat national sur les effets délétères de la drogue. en tant que bon citoyen, voire en tant que médecin, je peux
aider
à gagner du temps.
Ah, le docteur, qu'est-ce qui vous arrive, docteur?
Bah non, je suis un bon citoyen, je peux aider à gagner du temps.
Fais-leur une ordonnance.
En rappelant quelques évidences. Ouais. Pour ma part, j'avais acquis dès l'âge de 18 ans, après avoir appris le décès d'un de mes amis d'enfance retrouvé dans un square après une overdose à l'héroïne.
Ouais.
Il n'était pas le seul dans la génération des adolescents des années 80.
Exact.
Et vous vous souvenez peut-être comme moi du film Moi, Christiane F., 13 ans, drogué et prostituée,
ouais,
qui est l'autobiographie du toxicomane et qui était paru déjà en 1978.
Ouais, oui.
J'ai continué de percevoir les effets délétères de la drogue qui nous occupe. Quand, en jeune médecin, je voyais ces patients qu'on a demandé pour des sevrages, des espèces de R, souvent infectés par le VIH ou l'hépatite C, et qui eurent pour certains la chance d'être sauvés par le progrès des thérapies antivirales pour ceux qui ont eu le temps d'y arriver. Vous me direz, a-t-il, que je parle de drogue dure,
oui,
et que le président, lui, dans sa grande, grande clairvoyance, nous parle de cannabis, ce qu'on en appelait autrefois une drogue douce.
Mmh.
Autrefois, a-t-il, car les trafiquants, qui sont tous sauf des petits ingénus, se sont évertués à sélectionner des variétés de plus en plus riches en THC, le
psychoactif,
pour accroître la dépendance et fixer les clients.
Voilà.
Jusqu'aux années 2000, le pourcentage de THC tournait autour de 6 à 8%. Aujourd'hui, on est entre 25 et 50%, voire plus pour certains produits. Il faut espérer que... Il faut aussi évoquer, bien sûr, les ravages sur la santé mentale des jeunes. Aujourd'hui, plus d'un jeune sur quatre avoue avoir fumé du cannabis dans l'année.
Oui.
Et un sur deux l'avoir expérimenté. Et le confinement n'a rien arrangé. Le cannabis favorise trouble de la concentration, déscolarisation. Ses liens avec la schizophrénie sont plus ou moins éclaircis. Il n'y a pas de bascule, mais un grand nombre de fumeurs sont souvent des schizophrènes. Moi, j'ai presque envie de dire que les effets sur la santé ne sont pas forcément les plus graves. Pour ma part, je propose d'emmener notre président faire un petit tour dans le quartier pour lui éviter de perdre son temps dans un grand colloque assez ennuyeux. Et il pourrait constater ce que cela représente pour les habitants des quartiers populaires, d'avoir son hall d'immeuble, voire son palier en étage, squatté par des dealers qui contrôlent les accès, font du bruit jusque tard dans la nuit, urinent dans les ascenseurs. Il verrait peut-être comment un de ces jeunes de 15-16 ans devienne chauffeur, en espérant un jour être aussi au volant d'un bolide allemand loué en Pologne. Il pourrait aussi peut-être en profiter pour consoler ses mères qui ont perdu un fils, victime d'un règlement de compte, ou plus injuste encore, d'une balle perdue. Il mesurerait sans doute mieux que dans un grand débat qu'il ne faut pas se moquer du monde en faisant semblant de découvrir que le trafic de drogue est un cancer métastatique et qu'il est sans doute déjà trop tard. Et il comprendrait peut-être qu'il ne sert à rien d'interdire ce que l'on ne peut plus interdire.
Eh bien, merci pour ce billet d'humeur, mon cher docteur. Merci à vous.
Merci, docteur.
Comment ça va l'ambiance au niveau, au sein de votre établissement, l'hôpital Sainte-Camille?
Écoutez, les gens ne se regardent plus. Ils continuent d'avancer. Ils sont fatigués un peu de tous ces débats sur le pic, pas le pic. Quand vous avez l'aria qui déborde, c'est un peu difficile d'entendre dire que le pic est derrière nous. Donc voilà, c'est on attend de voir. Vous savez, comme Saint Thomas.
Ouais.
On attend de voir pour pouvoir croire.
Eh bien, écoutez, sur cette parole, je vous dis à la semaine prochaine, sans faute.
À la semaine prochaine, avec grand plaisir.
Merci, mon cher docteur Majid Seoussine. Je tiens à rappeler, 17h52, c'est déjà la fin de l'émission. Ça y est, je suis contraint. Merci, Alexis Poulain.
Merci.
Je rappelle le Monde fondateur.
Le monde moderne.
Je voulais dire fondateur du Monde moderne.
Le rendez-vous à 8h tous les matins de la semaine sur Twitch pour la revue de presse.
La revue de presse à ne pas manquer.
À ne pas manquer, vraiment, vraiment. Les gens sont très contents.
C'est sur YouTube aussi?
C'est sur YouTube, ouais, après. Mais pas en live. En live, c'est sur Twitch. Ouais.
Voilà. Philippe Nadji Bouriaki, à bientôt.
À très vite. Merci à vous
candidat,
pour
votre invitation. Rappelons-le.
Candidat au régional sur la liste de Julien Bayou, l'écologie évidemment, pour une région propre, saine et durable. Soutenez-nous.
Mohamed Benjebour, à bientôt aussi également.
À bientôt, candidat à rien, mais disponible pour tout.
Bon. Et Atli Meloli qui est au téléphone avec le président des SOS Racisme. On le dit à bientôt, je rappelle à nos auditeurs que pour Nasser Ramdan Ferhadj, eh bien il y a une sur Litchi, vous savez, en soutien à la famille de Nasser Ramdan Ferhadj. Donc ils ont besoin de vous, ils ont besoin aussi de votre soutien. Je vous demanderai évidemment partout en France d'aller vous rendre sur litchi.com et soutenir la famille de Nasser Ramdan Ferhadj qui est mort, à qui on a appris donc le décès mardi dernier, mardi 20 avril, donc mardi dernier. Voilà, allez le soutenir, s'il vous plaît, et allez surtout, ils ont besoin de vous, donc il y a 1 300 € donc, de collecter, et ils attendent encore des dons pour soutenir donc la famille. Voilà, merci à vous. À bientôt avec les Mélolis.
À bientôt, merci.
Maire adjoint à Bonneuil-sur-Marne.
Merci, à bientôt, Adil, et merci pour l'invitation. Voilà, et puis une pensée à la famille de Nasser.
À la réalisation, c'était Yanis. Je salue Tia Hamid qui est avec nous ici sur le plateau. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez le grand déballage tous les vendredis de 16h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.